Écoutez aujourd'hui une émission présentée par le pasteur Elios Mikel.
Chères auditrices, chers auditeurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre fidélité à l'écoute de notre radio. Et aussi, merci pour votre soutien par la prière et par vos dons qui sont pour nous une occasion renouvelée de rendre grâce à Dieu qui permet par la voix des ondes la proclamation de l'Évangile, la bonne nouvelle, dans un monde où les mauvaises nouvelles se succèdent comme les flots de la mer. Ce jour, nous parlerons d'un croyant nommé Thomas. J'ai bien dit un croyant, car ce qui est associé à ce nom, dans la pensée d'un grand nombre, c'est le qualificatif d'incrédule. Et il n'est pas question ici d'occulter les doutes et le défi qu'il a lancé lorsque ses compagnons de service lui ont dit « Nous avons vu le Seigneur ». Les faits se sont produits le soir du dimanche de Pâques. Les disciples étaient rassemblés dans une maison. Les portes étaient fermées, non pas pour une délibération de comploteurs rassemblés en huis clos, mais au contraire, elles étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. À l'aide d'espèces sonnantes et trébuchantes, le rapport des soldats qui gardaient le tombeau a été faussé et ils ont fait courir le bruit selon lequel les disciples sont venus de nuit voler le corps pendant qu'il dormait. Et on voudrait nous présenter les disciples comme des comploteurs ayant réussi le coup du siècle. Au soir du premier jour où Jésus est ressuscité, ils sont là, craintifs, désenchantés, dans le doute, réunis dans un lieu, les portes fermées, je serais tenté de dire fermées à double tour, à cause de la crainte qu'ils ont des chefs religieux. Et Jésus se montre à eux. Ce soir-là, Thomas n'est pas présent. Aussi, quand les autres lui disent « Nous avons vu le Seigneur », il leur répond cette phrase devenue célèbre. « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples sont à nouveau réunis. Cette fois, Thomas est là. Sait-on jamais si c'était vrai ce que les autres ont dit? Et à nouveau, Jésus se présente au milieu d'eux. Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et ne sois pas incrédule, mais crois. Et oui, le Seigneur avait bien entendu les propos de Thomas. En fait, le Seigneur est en train de les préparer à sa présence invisible avec comme garantie cette promesse. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La réaction de Thomas est spontanée et j'aime imaginer la ferveur avec laquelle il répond « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Rappelons ici simplement la parole donnée par Jésus à Marthe devant le tombeau de Lazare, en réponse à ses réticences. « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Mais l'attitude d'incrédulité manifestée par Thomas n'a pas été la première parmi les disciples. au matin de Pâques, les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée sont allées au tombeau apportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Mais elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Déconcertées, elles ne savaient qu'en penser lorsque deux hommes aux vêtements brillants leur apparurent et leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. » Elles quittèrent le tombeau et allèrent raconter tout cela aux 11 et à tous les autres disciples. Mais ceux-ci pensèrent que ce qu'elles racontaient était absurde, et ils ne les crurent pas. Et ce soir-là, Jésus se manifeste aux 11 alors qu'ils sont à table, et il leur reproche leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'ont pas cru ce qu'il avait vu ressuscité. Évangile de Marc, chapitre 16, verset 13. De grâce, n'accolons pas le qualificatif, l'étiquette d'incrédule au seul Thomas. Nous-mêmes, est-ce que nous ne sommes pas aussi saisis par des doutes? Parfois, certaines choses nous semblent difficiles à croire. Et pourtant, nous avons proclamé à maintes reprises qu'à Dieu, tout est possible. Et que penser de l'attitude de Jean-Baptiste? Dans sa prison, il entend parler des œuvres du Christ. Alors, il envoie quelques-uns de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» N'est-ce pas surprenant? Lui qui est un porte-parole exceptionnel du Seigneur déclare humblement, je cite, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Ésaïe. » Et quand il voit Jésus venir vers lui, il déclare « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean-Baptiste déclare encore « J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne savais pas encore qui il était, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Alors, pourquoi Jean-Baptiste envoie-t-il ses disciples questionner Jésus? Les barreaux de la prison ont-ils ébranlé sa foi? Je ne le pense pas. A-t-il besoin d'un réconfort? C'est possible. Pour ce qui nous concerne, ce besoin est latent dans notre vie. À plusieurs reprises, l'Écriture nous exhorte à nous encourager réciproquement. Je cite Hébreux, chapitre 3, verset 13. « Mais encouragez-vous les uns les autres jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. » Concernant Jean-Baptiste, Jésus a dit « Je vous le déclare, c'est la vérité. Parmi les humains, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » À propos de Thomas, rappelons simplement que ses compagnons de service ont exprimé les mêmes doutes que lui. Et pour les persuader, Jésus leur a dit, Évangile de Luc, chapitre 24, verset 39, « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, car un fantôme n'a ni chair ni os, contrairement à moi, comme vous pouvez le constater. » Il dit ces mots et leur montra ses mains et ses pieds. Dans quelques instants, nous porterons un regard positif sur Thomas. Restez avec nous. Thomas est un croyant dont la foi va progresser, s'affermir et faire de lui, avec les autres apôtres, un témoin de la résurrection de Jésus. La foi, telle une flamme de bougie, peut aussi être chancelante. Certains nous disent, je cite, « Moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. » Peut-être bien-aimé, est-ce là tout simplement votre propre langage ? « Je ne crois que ce que je vois. » Mais cela est-il tout à fait vrai ? Parfois nous disons « Il y a du vent aujourd'hui. » Mais ce que nous voyons, ce n'est pas le vent, mais simplement les effets, bénéfiques ou néfastes, du vent. Et pourquoi donc disons-nous aux enfants de ne pas mettre les doigts dans la prise électrique ? Ils ne voient que deux petits trous, et il est en temps pour eux d'explorer. Le courant électrique est, lui aussi, invisible, mais nous pouvons en voir les effets ou en ressentir une décharge. Si le prénom Thomas avait une résonance négative, alors pourquoi certains parents ont-ils prénommé leur garçon Thomas ? Je connais d'ailleurs un couple dans ce cas, et ils ont fait ce choix en pleine connaissance de cause, car l'enfant allait déjà à l'église avant même sa naissance. Voyons ce que la parole de Dieu nous rapporte concernant Thomas. Thomas est l'un des 12 que Jésus a choisi parmi ses disciples pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il n'est pas le plus célèbre des apôtres, mais comme les autres apôtres, Thomas, pendant 3 années, accompagnera Jésus de lieu en lieu, parcourant toute la terre d'Israël. Il sera, comme on dit, aux premières loges, pour voir Jésus, ému de compassion, ne pas repousser le lépreux, mais lui dire « Je le veux, sois pur » et le renvoyer guéri. Il en sera de même pour les autres malades, aveugles, boiteux ou paralytiques. À 2 reprises, Thomas a été aussi de ceux qui ont distribué les morceaux de pain et de poisson que Jésus a multipliés pour nourrir en un lieu désert une foule de plusieurs milliers de personnes. Il verra aussi avec quelle autorité Jésus commande au vent et à la mer, lors de la tempête, alors que lui-même se sent grandement en péril dans la barque. Et il le verra aussi rendre la vie au fils de la veuve de Naïn, ou appeler hors de la tombe son ami Lazare, placé là depuis 4 jours, et dont l'une des 2 sœurs, Marthe, dira « Il sent déjà ». La résurrection de Lazare, voilà un épisode marquant dans la vie de Thomas, car un message de Marthe et Marie était parvenu à Jésus, l'informant de la situation de Lazare. Le message disait « Celui que tu aimes est malade », ce qui sous-entendait « Empresse-toi de venir et de le guérir, comme tu as fait pour tant d'autres malades. » Mais Jésus ne va pas réagir comme les 2 sœurs l'avaient espéré. Je lis Jean chapitre 11, verset 4 et suivant. Après avoir entendu cela, Jésus dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il a appris que Lazare est malade, il reste 2 jours encore dans le lieu où il est. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Alors les disciples lui font remarquer que retourner en Judée n'est pas sans danger. Je lis au verset 8, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée ?» Réponse de Jésus, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Réaction des disciples, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais eux pensaient qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » À ce moment-là, Thomas exprime son pessimisme et s'adressant aux autres disciples leur dit « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Mais pour Jésus, l'heure de donner sa vie n'était pas encore venue. Alors, Thomas et tous ceux qui étaient présents auprès de Jésus vont vivre des moments extraordinaires. À l'entrée du village de Béthanie, Jésus rencontre d'abord Marthe, puis Marie. Je lis Jean chapitre 11, verset 33. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ? Seigneur, viens et vois. » Et à ce moment-là, Jésus pleure. Il compatit à la douleur que produit la séparation provoqué par la mort. Bien-aimés, redisons-le ici, avec force. Il est normal, même pour un chrétien, de pleurer un être cher, voire simplement de pleurer avec ceux qui pleurent. N'en déplaise à certains consolateurs fâcheux qui proclament le contraire. Jésus se retrouve devant le sépulcre. C'est une grotte, et une pierre est placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre !» Grande réticence de Marthe, la sœur du mort. Mais on ôte la pierre. Après avoir prié, Jésus crie d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sort, les mains et les pieds liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus de dire, déliez-le et laissez-le aller. Bien-aimés, je ne vous demande pas si vous auriez aimé être là, tant la réponse est évidente. Heureux Thomas, dirons-nous, tu es le témoin oculaire d'un événement glorieux. Mais le plus glorieux est encore à venir. Tout au long des 3 années passées avec Jésus, Thomas va bénéficier de la richesse de son enseignement. Il entend, comme la foule, le sermon sur la montagne. Il entend aussi la parabole du semeur et les suivantes concernant le royaume des cieux, avec le privilège, comme cela est dit dans Marc chapitre 4, verset 34, de recevoir en particulier l'explication de l'enseignement donné en parabole. Puis, comme le temps pour lequel Jésus est venu sur la terre approchait, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Et, lorsqu'il approchait de Jérusalem, au terme des 3 années, Jésus leur dira à nouveau ces mêmes choses. Je lis Luc chapitre 18, versets 31 à 34. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens. Puis on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verges, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Et l'évangile de Jean nous précise ceci. Je lis. Chapitre 16, versets 4 à 7. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse remplit votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et les événements s'accélèrent. Après le dernier souper, après avoir chanté les cantiques, ils se rendent à la montagne des Oliviers. Alors, Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Et Thomas et les autres disciples de dire avec Pierre, « Quand il nous faudrait mourir avec toi, nous ne te renierons pas. Nous poursuivrons notre récit des faits qui ont suivi cette déclaration collective et résolue après la pause musicale. » Nous ne te renierons pas. Voilà ce que viennent de dire en chœur tous les disciples, là, dans le jardin de Gethsémané. Mais l'instant d'après, Jésus se laisse arrêter et, je lis Matthieu chapitre 26, verset 35, « Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Puis, il y a tout le processus de condamnation. » Et Jésus est mis à mort, ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche, et un nommé Joseph de la ville d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, aidé de Nicodème, un chef des Juifs, qui avaient rencontré Jésus de nuit ont pris le corps de Jésus, l'ont enveloppé de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs, et l'ont déposé dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Les disciples sont dans une grande tristesse, désorientés, et n'ont pas le souvenir des paroles de Jésus, qui cependant avait bien pris soin de les instruire et de leur annoncer d'avance ces événements, avec comme parole pleine d'espérance, « Le troisième jour, je ressusciterai ». Au contraire, les chefs religieux qui l'avaient aussi entendu redoutaient cette parole. C'est pourquoi ils ont demandé et obtenu de Pilate qu'il ordonne de placer une garde devant le sépulcre après avoir scellé la pierre. Et voici, au matin de Pâques, un grand tremblement de terre se produit, car un ange du Seigneur vient rouler la pierre. Les gardes sont pétrifiés, tandis que Marie de Magdala, l'autre Marie et plusieurs autres reçoivent la bonne nouvelle. Il est vivant, ressuscité. Alléluia! Les gardes, penauds, ont avisé les chefs religieux, lesquels, après avoir délibéré, leur ont donné une forte somme d'argent en leur commandant de dire « Ses disciples sont venus de nuit et ont dérobé son corps pendant que nous dormions. » Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les femmes, à leur retour du sépulcre, ont annoncé toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Mais ils ont tenu ces discours pour des rêveries et n'ont pas cru le témoignage des femmes. Toutefois, Pierre et Jean ont pris la peine d'aller jusqu'au tombeau. Il était vide. Bien-aimés, des moqueurs nous disent, vous, les chrétiens, vivez sur le parfum d'une tombe vide. Que nenni, c'est-à-dire pas du tout. Jésus va apparaître à ses disciples, leur montrant qu'il est bien vivant, et il leur reprochera leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'ont pas cru ceux qui l'ont vu ressusciter. Et l'épisode sur les doutes et les réticences à croire de Thomas donne du relief aux premières réactions des disciples. Rappel de l'épisode évoqué en début d'émission. Absent au soir de Pâques, Thomas s'entend dire « Nous avons vu le Seigneur ». Il leur répond cette phrase devenue célèbre. Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, Thomas est présent, car sait-on jamais. Si c'était vrai ce que les autres ont dit. Et à nouveau, Jésus se présente au milieu d'eux, avec une parole directe pour Thomas. Thomas, avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Avance aussi ta main et ne sois pas incrédule, mais crois. Surprenant, n'est-ce pas? Mais oui, le Seigneur avait bien entendu les propos de Thomas. En fait, le Seigneur est en train de les préparer à un temps nouveau, celui de sa présence invisible, avec comme garantie cette promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les disciples avaient été réconfortés par la chaleur de sa présence tout au long de leur marche à ses côtés. Aussi, lorsqu'il leur a annoncé son départ, ils sont devenus tout tristes. À ce moment-là, et à plusieurs reprises ensuite, Jésus leur a annoncé la venue du Consolateur. Je cite Jean, chapitre 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité. Il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Thomas, Avance ici ton doigt, avance aussi ta main. La réaction de Thomas est immédiate. Et quelle ferveur, reconnaissance, adoration. Cette parole de Thomas est une puissante confession de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Maintenant, parce que nous sommes concernés, écoutons Jésus lui répondre. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous sommes dans cette catégorie. Jésus se rencontre et se connaît d'une manière différente, mais bien réelle. Jésus est vivant. Il est ressuscité. C'est le message, la bonne nouvelle que Thomas et les autres apôtres ont proclamé en qualité de témoins de sa résurrection. Après l'ascension et la Pentecôte, ils sont allés prêcher partout. Et le dernier verset de l'évangile de Marc précise, je lis chapitre 16, verset 20, « Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il accompagnait. » Certains regrettent de ne pas avoir vécu du temps où Jésus était sur la terre, car, pensent-ils, ils auraient pu, peut-être, le rencontrer et être secourus. Bien-aimés, notre situation aujourd'hui est beaucoup plus favorable, car à tout instant et en tout lieu, quiconque appelle le Seigneur à son aide est entendu et secouru. Voici ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, versets 24 et 25. Mais Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Oui, Jésus toujours vivant, peut sauver parfaitement. Bien-aimé, as-tu besoin d'une guérison physique ou spirituelle? Le Seigneur est près de toi en cet instant. Parle-lui, dis-lui ton attente. Peut-être tu dis, je voudrais bien être secouru, mais je n'arrive pas à croire. Un homme tout à la fois désespéré et désabusé fait appel à Jésus. Son fils est possédé d'un esprit muet. Après avoir exposé le cas, il dit, je lis, Marc chapitre 9, verset 22, « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus relève ces trois mots, « Si tu peux », et lui affirme, « Tout est possible à celui qui croit. » Bien-aimé, écoute bien la réaction de cet homme. Aussitôt, le père de l'enfant s'écrie « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Bien-aimé, souviens-toi, Jésus est mort pour tes péchés, parce qu'il t'aime. Jésus t'appelle à venir à lui. Il est ressuscité, il est vivant. Tel ce père dont je viens d'évoquer la prière, crie au Seigneur et dès aujourd'hui, il te répond. Il intervient dans ta vie. Alors à l'occasion, fais-nous part de la grâce que le Seigneur t'a accordée. Fais-nous savoir comment il t'a secouru. Cela nous encouragera. Amen.